On est toujours sur la définition du Benoni. Donc là, le Tania introduit une nouvelle idée. Il dit Amar Rabba. Rabba, il dit, en fait, c'est une citation de la Gemara. Amar Rabba, Kegon Ana Benoni. Donc la Gemara nous dit, il y a quelque chose qui s'appelle un Benoni. Qu'est-ce que c'est qu'un Benoni? Alors Rabba, il dit, par exemple, moi, je suis un Benoni. Donc ça veut dire on a deux façons d'interpréter la Gemara. Ou bien Rabba est un tzaddik et il dit qu'il est Beinoni par modestie, ou alors Rabba est effectivement un Beinoni. Donc la conclusion, c'est qu'on va voir qu'effectivement Rabba est un tzaddik. Donc quand il dit Kegon Ana Beinoni, par exemple moi je suis Beinoni, il le dit par modestie. Néanmoins, la modestie, quand quelqu'un dit une phrase par modestie, il faut que la phrase soit plausible. Quelqu'un qui dit je suis très intelligent, quelqu'un qui est très intelligent et qui dit je suis moyennement intelligent, ça, c'est une phrase qu'on peut accepter comme étant une phrase de modestie. Par contre, quelqu'un qui va dire je suis un cambrioleur alors qu'il sait qu'il n'a jamais cambriolé du tout, on ne va pas appeler ça de la modestie. Donc ça veut dire, quand on dit quelque chose par modestie, il faut que l'affirmation modeste soit plausible. Sinon, ça ne colle pas. Donc là, en l'occurrence, donc, je vous ai dit, la conclusion, c'est qu'effectivement, Rabba est un tzaddik. Et donc, quand il dit « je suis un Benoni », il le dit par modestie. Néanmoins, il faut que ce qu'il dit, ce soit plausible. Donc, ça veut dire « Rabba est un tzaddik », c'est-à-dire quelqu'un qui ne commet pas du tout de faute. Et néanmoins, il dit « je suis Benoni ». Donc, s'il dit « je suis Beinoni » en sachant qu'il ne commet pas du tout de faute, il faut en déduire que le Beinoni est bien quelqu'un qui ne commet pas du tout de faute. C'est la raison pour laquelle Rabba, quand il parle par modestie, alors il peut dire « je suis Beinoni ». Le fait que Rabba puisse dire « je suis un Beinoni », c'est la preuve que le Beinoni, dans son comportement, est strictement identique au tzaddik. C'est pour ça que le rabbin, il sait très bien qu'il ne fait pas du tout de Averot. Toute sa vie, il n'a jamais fait de Averot. Donc il ne va pas dire « je fais des Averot » alors qu'il sait très bien qu'il n'en fait pas. Ce ne serait pas de la modestie. Simplement, où intervient la modestie de rabbin, c'est qu'au lieu de dire « je suis un tzaddik, depuis ma naissance, je suis un tzaddik, donc je suis quelqu'un d'élevé, qui a une neshama élevée », alors il dit « pas du tout, moi je suis né Racha ». Et donc, si j'arrive maintenant à une situation dans laquelle je ne fais pas du tout de Averot, c'est simplement parce que j'arrive à maîtriser mon Yetzirah. Donc ça, c'est une phrase qu'on peut effectivement dire par modestie. Par contre, ce qui est important pour nous, pour notre contexte ici, c'est que nous, on essaye de définir qu'est-ce que c'est un Beinoni. Et donc, on trouve ici une confirmation que le Beinoni a un comportement strictement identique à celui du Tzadik. Beinoni, ça ne veut pas dire intermédiaire. Beinoni, ça veut dire moyen. Alors moyen, qu'est-ce que ça veut dire moyen? Ça veut dire moyen entre le rachat et le tzaddik. C'est effectivement, il fait effectivement la charnière entre les deux. Il se rapproche du tzaddik par le fait qu'il a un comportement identique au tzaddik, et il se rapproche du rachat par le fait que, comme le rachat, il a un yetzer hara. Donc il est bien intermédiaire entre les deux. Beinoni est forcément un érudit, parce que Beinoni doit lutter contre le mal. C'est pas quelque chose qui lui vient naturellement. Et il n'y a pas d'autre moyen de lutter contre le mal qu'en identifiant le mal. Donc il faut avoir la connaissance pour savoir qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui n'est pas.
Ah bah, il savait qu'il n'y avait pas de mal en lui.
Pardon ?
Il savait qu'il était tzaddique, qu'il n'y avait pas de mal en lui.
Alors, comment il pouvait... Attention, Rabat il ne ment pas. Rabat il est modeste.
D'accord.
Et donc par modestie, il dit que comme un Beinoni. Il pense vraiment qu'il est Beinoni. Il pense qu'il est Beinoni. Maintenant, le fait qu'il peut penser qu'il est Beinoni, c'est bien la preuve qu'un Beinoni, c'est quelqu'un qui ne fait jamais de Averot. Quelqu'un qui a un comportement strictement identique à celui d'un tzaddik. Donc Rabat, il est effectivement un tzaddik, mais comme il est très modeste, alors il ne veut pas dire je suis un tzaddik, donc il dit je suis un Beinoni.
Mais c'est très bien qu'il n'est pas en lutte constante.
Alors pourquoi il sait... Alors quand on dit que... Attention, quand on dit que le Beinoni... il est en lutte constante contre le Yetzer Hara, ça ne veut pas dire que la lutte elle est identique chez tout le monde. Il y a des gens qui ont un Yetzer Hara très fort dans tel domaine, eux ils ont besoin de beaucoup lutter. Il y a des gens qui ont un Yetzer Hara beaucoup plus faible. On va voir plus loin dans le Tania. Le Tania, il va nous dire plus loin d'un côté. Quand on voit quelqu'un qui fait une avéra, alors on doit faire en sorte d'essayer de le convaincre de ne pas faire cette avéra. D'un autre côté, le Tania il nous dit on doit se faire le raisonnement. Lui, il est assis dans la rue toute la journée, donc il est en contact toute la journée avec toutes les ta'avot, et donc il a beaucoup de mal à se maîtriser, etc. Par contre, moi, au lieu d'être dans la rue, je suis assis dans le Beit HaMidrash. Donc moi, j'ai un Yetzera qui est beaucoup plus faible. Donc ça veut dire le fait que je constate chez lui une Avera et que cette Avera, elle n'existe pas chez moi, ça veut, et que je m'efforce de faire en sorte que lui cesse de faire cette Avera, ça ne veut pas dire que je constate ma supériorité à moi par rapport à lui. Simplement, je constate que lui, il a un Yetzera que moi, j'ai pas. Lui, il est soumis à une certaine... une attirance vers le monde à laquelle moi je ne suis pas soumise. Donc ça veut dire la lutte contre le Yetzera n'est pas uniforme. Alors donc, le rabbin il peut très bien dire moi je suis un Beinoni, non pas un tzaddik, je fais pas du tout de Averot, et donc chez moi la lutte elle se résume à pas grand chose parce que j'ai un Yetzera très fort dans aucun domaine. C'est pour ça que chez moi la lutte n'est pas très forte. Pas d'un tzaddik dans ce cas-là. On parle pas d'un tzaddik dans ce cas-là. À partir du moment où on dit qu'il a un yetzara qui grandit, on parle pas d'un tzaddik. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui a transformé son yetzara. Ça, on dit le. Bien sûr, absolument. On est d'accord. Dans ce cas-là, on parle pas des tzaddikim. On parle pas des tzaddikim, on parle de quelqu'un qui a un yetzer hara, qui a un yetzer tov à côté. Et donc, comme dans l'existence du monde, on met en parallèle le bien avec le mal, alors effectivement, chaque accroissement du bien, il doit nécessairement donner lieu à un accroissement du mal. Mais le tzaddik, lui, il n'a pas de mal en lui. C'est pour ça qu'on dit le Ve'afta et Hashem bechol levavra, pas bechol libra. Rashi dit que ça veut dire bechol levavra, ça veut dire bishnei itzarefra. Ça veut dire que le tzaddik, c'est quelqu'un qu'il a tellement pas de mal en lui que son yetzerara l'incite à faire le bien au même titre que son yetzertov. Ça, on peut dire bechol levavra. Par le côté droit du cœur comme par le côté gauche du cœur. Avoir des enfants. Quoi? Une fin de Torah.
Une fin de la Torah.
Shalom, avoir des enfants, c'est pas une autre. C'est une fin de Torah.
Tu vas mieux en tant
que. Neuf. Ça veut dire quoi? Encore une fois, il faut faire une différence entre le tzaddik qui agit uniquement de manière positive. Et le rachat, que lui, à chaque fois, il doit affronter le mal. Maintenant, le tzaddik, c'est quelqu'un que quand il a des enfants, il arrive à le faire dans une manière que ça soit uniquement un acte du service de Dieu. Par exemple, sur Yaakov, on dit mitato shlema. C'est-à-dire mitato shlema. Ça veut dire chaque fois qu'il a eu un contact avec une de ses femmes, il a eu un enfant. Donc il le faisait comme un tzaddik. peut le faire. Pour un tzaddik, avoir une relation avec sa femme, c'est un acte du service de Dieu, au même titre que n'importe quel autre acte du service de Dieu. Ça doit être la même chose pour tout le monde. Simplement, pour quelqu'un qui n'est pas un tzaddik, qui a un effort particulier qui est nécessaire, pour le tzaddik, ça se fait naturellement, comme ça se fait naturellement dans tous les autres domaines. Donc, Rabba, qui est le tzaddik de sa génération, il dit Kegon Ana Beinoni, Amar le Abaye, Abaye lui répond Lo Shavikmar Chaye le Cholbre. Notre maître ne laisse la vie à aucune créature. Qu'est-ce que ça veut dire? Au sens simple, ça veut dire que le Rabba est le chef de sa génération. Donc, si Rabba est le chef de sa génération, et qu'il est, qu'on va dire qu'il est par exemple un tzaddik vetovlo, ça veut dire qu'il y a dans sa génération d'autres qui sont tzaddik veralo, d'autres qui sont beinonim, d'autres qui sont rechaim. Par contre, si on dit que Rabba est un beinonim, à ce moment-là, toute sa génération sont des rechaim. Si on dit que toute la génération sont des rechaim, alors on dit rechaim bechayehem kruyim metim. Rechaim sont appelés morts de leur vivant. Parce qu'en fait, le signe de la mort, c'est le contact avec le mal. Donc le racha, c'est celui qui est en contact avec le mal et qui ne perd pas le contact avec le mal pendant toute son existence. Donc même de son vivant, il est appelé mort. Donc ça, c'est la réponse que lui dit Abaye au sens simple. Abaye, il lui dit, si toi, qui es le chef de notre génération, tu es uniquement un Beinoni, ça veut dire que toute la génération est faite de Rechaïm. Maintenant, la signification plus profonde, c'est que dans chaque génération, il doit y avoir un tzaddik qui distribue la vitalité à toute sa génération. Donc, c'est ça ce que Abaye dit à Rava, c'est toi le tzaddik de la génération, donc c'est toi qui es chargé de distribuer la vitalité à toute la génération. Maintenant, un Beinoni n'est pas un tzaddik. Un Beinoni, c'est quelqu'un qui lutte contre son propre mal. Donc, un Beinoni ne peut pas distribuer la vie à toute sa génération. Ça veut dire que si tu refuses d'admettre que tu es un tzaddik, et si tu n'assumes pas ta mission de distribuer la vitalité à ta génération, à ce moment-là, il n'y a plus personne qui peut distribuer la vie dans la génération. Donc, toute la génération est morte. Donc là, il y a une idée importante qu'il faut comprendre. Dieu a créé le monde de telle façon que dans chaque génération, il y a un chef de la génération et que la vitalité de tous ceux qui appartiennent à cette génération est distribuée par l'intermédiaire du chef de la génération. Alors, on peut le comprendre de plusieurs façons. La première idée qu'on peut introduire, c'est celle qu'on a vue au tout début quand on a défini une neshama. On a dit qu'est-ce que c'est qu'une neshama. On a vu que le Tanya lui-même nous donne l'exemple, on va le voir un peu plus loin à la fin de ce chapitre. Le Tanya nous dit, lorsqu'il y a la conception d'un enfant, alors l'enfant est conçu à partir d'une cellule unique qui émane du cerveau du père. Et donc cette cellule qui va féconder, dans un premier temps elle est une cellule unique, et puis elle va ensuite commencer à se diviser en une infinité de cellules. Et donc, il va y avoir une partie de cette cellule du cerveau du père qui va devenir le cerveau du fils. Et la partie de la cellule du cerveau du père qui devient le cerveau du fils n'est pas du tout modifiée par rapport à ce qu'elle est à l'origine. Par contre, la partie du cerveau du père qui va devenir les ongles ou les cheveux du fils, vous voyez qu'elle a une mutation, une différenciation énorme par rapport à son origine dans le cerveau du père. Alors donc, dans l'enfant, la partie de la cellule qui va devenir le cerveau du fils, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais le cerveau du fils, c'est ce qui va diriger tout le corps du fils. Tout le corps est dirigé par le cerveau. Donc, le cerveau du fils va diriger tout son corps. De la même façon, la neshama qui n'a pas été modifiée par rapport à ce qu'elle est à l'origine, c'est-à-dire la neshama du chef de la génération, elle, elle joue le rôle du cerveau par rapport à tout l'organisme qui est constitué par toutes les neshamot de la génération. Et donc, de même que c'est le cerveau qui distribue la vitalité à tout le corps, alors de la même façon, c'est la neshama qui joue le rôle de cerveau, donc le tzaddik qui dirige la génération, qui va distribuer la vitalité à tous ceux qui appartiennent à cette génération. Et donc, le Tanya va nous montrer après qu'il y a plusieurs façons de recevoir la vitalité du chef de la génération. D'un côté, on nous dit il faut s'efforcer les idamot la Kadosh Baruch Hu. Doit s'identifier à Dieu, avoir un comportement identique à celui de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma'u rachum afata yirachum. Ma'u chanun afata tzirachanun. Chaque fois que tu constates une qualité chez Dieu, alors tu dois toi-même adopter cette qualité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les qualités de Dieu, elles sont mises en pratique chez le tzaddik de la génération. Donc imiter le comportement du tzaddik de la génération, c'est s'attacher à lui. Et de cette façon-là, c'est recevoir la vitalité profonde que lui distribue. Par contre, si quelqu'un ne s'attache pas au chef de la génération, alors le Tanya va nous dire plus loin, on prend l'expression du Zohar, le Zohar va nous dire, il va lui distribuer la vitalité, keman deshadé batar kitfoy, comme quelqu'un qui jette quelque chose à son ennemi derrière son épaule. Si j'ai quelqu'un que je déteste et que je n'ai pas envie de voir, et néanmoins je suis obligé de lui donner quelque chose, donc je vais lui jeter par derrière mon épaule ce que je suis obligé de lui donner, ce qui m'évite de voir sa face. Et donc on voit que, en tout état de cause, la vitalité de tous ceux qui vivent doit nécessairement passer par le chef de la génération. L'origine de cette répartition entre toutes les neshamot, c'est que au moment où Dieu a créé le monde, Dieu a mis toutes les neshamot du peuple juif dans Adam Harishon. Adam Harishon avait non pas une âme, mais 600 000 âmes. Elles étaient toutes dans le corps d'Adam Harishon.
Dans la présentation, vous avez dit que l'âme était en incubation dans l'autre, vous avez dit qu'il y avait deux âmes ensemble.
Non, ça c'est différent. Là, on parle d'âme à proprement parler. C'est-à-dire qu'Adam Harishon, il a un statut particulier par rapport à tous les autres hommes. Il n'a pas de parents, il est né d'ores et déjà à l'état adulte. Donc lui, il n'a pas une âme, il a 600 000 âmes. Et donc, chaque âme est influencée par la manière dont elle a été placée dans le corps d'Adam Harishon. Une âme qui se trouve dans le cerveau d'Adam Harishon, elle va avoir des forces intellectuelles plus développées. Une âme qui se trouvait dans le cœur d'Adam Harishon va avoir des forces émotionnelles plus développées. Une âme qui se trouvait dans les mains, dans les bras, dans les jambes d'Adam Harishon, elle va avoir une force d'action plus développée. Donc il y a une prédestination de la mission qui est confiée à la neshama en fonction de la place que cette neshama elle avait dans le corps de Adam Harishon.
Mais alors c'est parce que
la prira, elle est entière, parce que même si on te donne une mission bien particulière, d'abord premièrement tu sais pas quelle est cette mission, c'est à toi de la découvrir. Ça veut pas dire que
si on a des forces, on a plus de facilité pour faire des choses au niveau du bas assez. Donc ça veut dire que quand on va faire une mitzvah, les mitzvahs sont beaucoup plus simples pour nous de la faire. Donc la Béchira, quel est son choix?
Encore une fois, il n'y a pas de libre arbitre, ou il y a un défaut du libre arbitre lorsque on donne à chacun des forces différentes et qu'on attend en retour un résultat identique. À partir du moment où chacun reçoit des forces différentes et qu'on attend d'eux un résultat différent, tout ce qu'on peut faire, c'est constater une différence, c'est tout. Bien sûr. En tout cas, ce qu'on va attendre de lui est différent. Chacun a sa mission sur Terre. La mission de l'un est différente de la mission de l'autre. C'est encore plus valable dans nos générations à nous, puisqu'on sait que dans nos générations à nous, il n'y a plus de Neshamot Hadashot. Il n'y a plus maintenant de neshamot qui descendent pour la première fois dans le monde. Donc toutes nos neshamot sont des réincarnations de Neshamot qui ont déjà vécu dans des vies antérieures et donc qui viennent encore une fois dans le monde pour compléter des choses qui ont manqué dans les vies précédentes. Ça veut dire que même si on est obligé bien évidemment de faire toutes les mitzvot, on n'a pas le droit de se dispenser de faire n'importe quelle mitzvah, tout ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, on est obligé de l'appliquer intégralement. N'empêche que la mitzvah a une valeur différente pour chacun. Ça veut dire qu'une mitzvah que j'ai pleinement accomplie dans une vie précédente, encore une fois, j'ai pas le droit à aucun prix de me dispenser de l'appliquer. Il n'empêche que cette mitzvah-là, elle a pour moi une valeur inférieure à d'autres personnes. Parce que moi, cette mitzvah-là, je l'ai déjà pleinement accomplie dans une vie précédente. Donc ma neshama a déjà reçu pleinement toute l'élévation qu'elle devait tirer de cette mitzvah-là. Par contre, il y a d'autres mitzvot que j'ai ratées dans des vies précédentes, et c'est pour ces mitzvot-là que je descends dans le monde.
C'est le mérite des ancêtres ?
C'est pas le mérite des ancêtres, c'est mon mérite personnel. C'est ce que moi j'ai accompli dans une vie précédente. Pour qu'une neshama reçoive pleinement l'élévation, il faut qu'elle ait accompli la totalité des 613 mitzvot. Ça veut dire que s'il y a des mitzvot qui ont été négligées dans des vies précédentes, alors une des possibilités, c'est pas la seule, une des possibilités, c'est de revivre une seconde fois de façon à compléter dans la seconde vie ce qui a manqué dans la première. Alors comment on peut le savoir si on a quand même un moyen de le savoir? La mitzvah qui est la plus importante, c'est celle qui est la plus difficile pour toi. Plus tu as des difficultés à la faire, et plus la mitzvah a une valeur pour toi. C'est pour ça qu'il y a un verset, on dit « Me oivai techakmeni ». Rends-moi, au sens simple du verset, c'est « Rends-moi plus intelligent que mes ennemis ». Maintenant, au sens de la chassidut, « Me oivai techakmeni », ça veut dire « Rends-moi intelligent par l'observation de mes ennemis ». C'est mes ennemis. Mes ennemis, c'est mon Yetzerama. Donc, mes oivai techakmeni, rends-moi intelligent par l'observation de mes ennemis. Ça veut dire, quand j'observe mon Yetzerama et que je vois dans quel domaine mon Yetzerama m'attaque le plus, alors de là, je peux savoir quelle est la mitzvah qui est la plus importante pour moi. Donc, plus j'ai des difficultés à accomplir une mitzvah, et plus je peux être certain que cette mitzvah est importante pour moi. Vous connaissez l'histoire, l'histoire du Baal Shem Tov qui illustre bien cette idée-là. Il dit que le Baal Shem Tov est venu une fois dans une ville pour ramasser de l'argent pour la tzedaka. Donc les gens ont commencé à lui donner toutes les bonnes adresses de la ville. Et puis après on lui a donné l'adresse d'un riche. On lui a dit, cet homme-là, il participe largement à la tzedaka, mais tu vas voir qu'il va te recevoir au pas de la porte. Il ne va pas te faire rentrer chez lui parce qu'il a une peur bleue qu'on salisse sa maison. Une belle maison, beau meuble, une belle moquette, supporte pas l'idée que les gens vont rentrer dans la maison et salir sa maison. Donc, pour une mitzvah, il est toujours présent, on lui demande à Tzedaka, il est prêt à donner autant qu'il faut donner, mais c'est à la porte, tu rentreras pas chez lui. Donc, le Baal Shem Tov va voir cet homme-là, et il tape à la porte, donc effectivement, il le reçoit à la porte, il dit, voilà, j'ai besoin de Tzedaka, donc il lui contribue très largement, tout ça, à la porte de la maison, il ne fait pas rentrer chez lui. Et puis après, le Baal Shem Tov dit, je te remercie, tu m'as donné une grande somme, qu'est-ce que je peux te donner en récompense, est-ce que je peux te donner une bracha? Il lui dit, Baruch Hashem, j'ai pas besoin de brachot, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai besoin de rien du tout. Alors le Baal Shem Tov lui dit, écoute, si tu veux pas une bracha, alors à la place, je vais te raconter une histoire. Et il lui dit, le Baal Shem Tov lui raconte, il dit, une fois il y avait un homme qui a fait toutes les avérotes possibles et imaginables dans sa vie. Et pas une avéra qu'il a loupée. Et puis un jour, il était en train de marcher dans la rue dans son carrosse. Et puis il a vu un vieux avec sa charrette, et sa charrette elle s'est embourbée. Et tout d'un coup, il a eu un sentiment de pitié. C'était la première fois de sa vie qu'il ressentait de la pitié pour quelqu'un. Donc il a demandé à son cocher d'arrêter. Et puis il a aidé ce vieux à sortir sa charrette qui était embourbée. Et puis tout le reste de sa vie, il a fait que des avérotes. Et donc 120 ans plus tard, il est arrivé devant le Bedin Shel Mara. Donc le Bedin Shel Mara examine son dossier. On dit, bon, ben, c'est un cas simple. Toutes les toutes les avérotes possibles et imaginables. À ce moment-là, il y a un ange défenseur qui vient et dit « Attendez, il a fait quand même une mitzvah. » Pas négliger la mitzvah qu'il a faite. Et donc, le Bedin Shelma, là, commence à réfléchir. Il dit « Ouais, ce qu'on va faire ?» On va mettre sur une balance, d'un côté, toutes les avérotes qu'il a fait dans sa vie, de l'autre côté, toute la boue qu'il a déplacée pour aider ce juif. Et on va voir qu'est-ce qui est le plus lourd. Et donc, le Bedin Shelmala, il a mis ça sur la balance, et on s'est aperçu que les avérotes, elles étaient un tout petit peu plus lourdes que la boue. Et à ce moment-là, l'ange qui a amené la boue, il a dit « Attendez, vous n'allez pas l'envoyer au Guéhinnom parce qu'il manque un peu de boue. Un tout petit peu de boue, à cause d'un peu de boue, vous allez l'envoyer au Guéhinnom. » Alors le Bedin Shelmala, il a dit, ce juif-là, il va redescendre une deuxième fois, sa Neshama, elle va redescendre une deuxième fois dans le monde, et son but, ce sera de recevoir des invités à la maison. Et chaque fois que les invités ils rentrent à la maison avec de la boue sur les chaussures, et que la boue, elle se dépose sur la moquette, alors cette boue, elle viendra s'ajouter sur la balance. C'est pour ça qu'on voit ce juif-là, toutes les mitzvot, il était prêt à les faire. Pourquoi ? Parce que le Yetzer Hara l'attaquait pas sur les autres mitzvot. Il avait déjà tout le accompli. Il était descendu pour une chose bien précise. Donc le Yetzer Hara, il attaquait uniquement dans le domaine pour lequel toute l'importance de sa vie, elle dépendait de ce domaine. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que un homme, il ne sait pas quelle est la mission qu'il confie à sa Neshama. C'est à lui d'être suffisamment perspicace pour le déterminer. Par contre, son Yetzer Hara, lui, il le sait. Parce que son Yetzer Hara, il a reçu pour mission de troubler l'homme dans ce domaine précis. Donc le Yetzer Hara, il faut qu'on lui donne un ordre de mission précis. Donc moi, je ne sais pas quelles sont les mitzvot qui sont les plus importantes pour moi. Par contre, mon Yetzer Hara, lui, il le sait. Puisque lui, il est chargé de m'attaquer sur ces mitzvot-là. Donc ça veut dire, par ricochet, comment je peux déterminer les mitzvot qui sont les plus importantes pour moi, en voyant les domaines dans lesquels le Yetzer Hara m'attaque le plus fortement. C'est les domaines qui sont les plus importants pour moi. Donc ça veut dire que chaque Neshama reçoit une mission en fonction de la source de la Neshama, en fonction de ce qui a été accompli dans les existences antérieures. Et donc, ça veut dire que cette Neshama, au moment où il accomplit sa mission, il a besoin d'être guidé. Donc, puisque vous voyez que toutes les Neshamot, elles ont la forme d'un corps, donc il y a le cerveau, et le cerveau dirige toutes les parties du corps. De la même façon, il y a une Neshama qui est le cerveau de la génération. Ça, c'est la Neshama du Tzadik Ador, la Neshama du Tzadik qui dirige la génération. Et donc, c'est lui qui apporte la vitalité dont chacun a besoin pour pouvoir mettre en pratique la mission qui lui est confiée. C'est pour ça qu'on voit que dans la Torah, Moshe Rabbeinu dit « Anochi omed ben Hashem ou ben Echem, je me tiens entre Dieu et vous, lehagid lachem et dvar Hashem, pour vous dire la parole de Dieu. » Rashi explique le hagid le hamshich. Qu'est-ce que ça veut dire dire la parole de Dieu? Ça veut dire la faire descendre vers vous. Le hamshich, hamshacha. Ça veut dire qu'on peut imaginer la parole de Dieu soit dans l'air et que moi j'arrive pas à la capter de telle façon qu'elle me parle à moi. Ça, c'est le rôle du tzaddik, de faire en sorte que ce que Dieu a dit puisse s'appliquer à ma personnalité. Ça, les hagid, les hamshir. Donc ça, c'est exactement le rôle du cerveau qui dirige tout le corps humain, qui fait en sorte que chaque organe du corps fonctionne exactement comme il doit fonctionner. Donc ça, c'est le rôle du tzaddik. On parlait avant de la avoda du tzaddik. Donc il y a deux catégories de tzadikim. Il y a les tzadikim qui ont une avoda par rapport au monde. Il y a des tzadikim qui ont une avoda par rapport aux autres juifs. Les tzadikim qui ont une avoda par rapport au monde, c'est des tzadikim cachés. Des gens dont on ne connaît pas l'existence. Et eux, ils ont une mission que Dieu leur confie par rapport au monde. sans que nous on le sache, sans que l'information vienne jusqu'à nous. Une autre histoire, si vous voulez, pour illustrer cette idée, on dit que le fois il y a un chassid qui est rentré chez le Rabbi Maharash et il a dit, moi je ne comprends pas la notion de Hashgacha Pratit, divine providence, telle que le Baal Shem Tov il a défini. Donc le Baal Shem Tov, le Rabbi Maharash lui a expliqué, il a dit bon, tout ça c'est théorique, mais dans la pratique je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors le Rabbi Maharash lui a dit, va à la fenêtre et dis-moi ce que tu vois. Alors cet homme se met à la fenêtre et il dit, je vois une charrette qui passe, qui est chargée avec du foin. Et le Rabbi Maharash lui dit, continue, dis-moi ce que tu vois. Il dit, mais il y a un coup de vent et puis il y a un fétu de paille qui s'est détaché de la charrette et qui est tombé par terre. Le Rabbi Maharash lui dit, alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais il y a un homme qui est passé dans la rue, il a ramassé le fétu de paille, il est parti avec. Alors le Rabbi Maharash lui dit, maintenant je vais t'expliquer. Cet homme que tu viens de voir passer dans la rue, c'est un des 36 tzadikim cachés. Et lui, le monde a besoin de sa prière pour exister. Le monde ne peut pas se maintenir sans sa prière. On a besoin de sa prière pour que le monde puisse exister. Quand il s'est levé ce matin, il avait une rage dedans. Il n'arrivait pas à prier. Alors comme il n'arrivait pas à prier, il avait mal aux dents, il est sorti se promener dans la rue et il a trouvé une paille par terre et il est rentré chez lui, il a attaché la dent à la paille, il a arraché la dent et avec ça il est arrivé à calmer la douleur et il a pu prier et le monde a besoin de sa prière pour pouvoir exister. Et après le Rabbi Maharash a dit, pendant les 6 jours de la création, il y a eu une pensée spécifique de Dieu pour que le fétu de paille s'envole de la charrette au moment précis où lui, il allait passer pour qu'il puisse ramasser la paille au moment où il en avait besoin. Ça, c'est l'Hashgacha Pratit. Donc ça, c'est première catégorie de tzadikim. C'est des tzadikim qui ont un rôle par rapport au monde et qui ne sont pas connus des autres hommes. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de tzadikim, c'est ceux qui ont une mission par rapport au peuple juif. Parmi ces tzadikim qui ont une mission par rapport au peuple, il y a le tzadik ador, le tzadik de la génération, celui qui est au-dessus de tous les autres. Donc lui, son rôle, c'est de distribuer la vie à tous les autres. Donc ou bien on s'attache à lui, on se soumet à lui, et à ce moment-là, on reçoit la vitalité de façon directe, ou alors on se dresse contre lui, et à ce moment-là, on reçoit quand même la vitalité de lui, parce que c'est la source unique de la vie, seulement dans ce cas-là, on la reçoit de manière indirecte. Donc vous voyez que cette idée-là, elle figure depuis le début du Tanya. Abaye dit à Rava, on a besoin de quelqu'un qui distribue la vitalité dans le monde. C'est de cette façon-là que le monde peut se maintenir. Donc si tu refuses ton rôle de tzadik, si tu refuses d'être le tzadik ador, ça veut dire qu'il n'y a plus un tzadik dans la génération qui est susceptible de distribuer la vitalité à toute la génération. Et dans ce cas-là, le monde ne peut pas se maintenir. Ou la vine colzé. Donc on va essayer de comprendre toutes ces notions, de comprendre toutes les définitions qui ont été données. Ber et Dev, avec une explication approfondie. Vegam le avin machama Yov. On doit aussi comprendre ce que dit Yov. Bababatra perekalef. Yov nous dit Ribono shelolam, barata tzadikim, barata veshaim. Yov dit clairement à Dieu, tu as créé des Rechaïm, tu as créé des Tzadikim. Donc ça veut dire qu'il y a bien un déterminisme à la base. Yov nous dit bien, le Tzadik a été créé en tant que Tzadik. Et le Racha a été créé en tant que Racha. Ça veut dire que selon qu'on a été créé en tant que Tzadik ou en tant que Racha, on va recevoir un service de Dieu qui est différent, qui est même opposé. Tout de suite, on va demander. Tout de suite. Vera tzadik verasha lokehama. Alors qu'au moment de la naissance, c'est écrit dans la Gemara Nida, on dit le 40 jours avant la conception, alors on dit bat kol machrezet, voix dans le ciel qui affirme un tel va se marier avec un tel. et il sera riche, il sera pauvre. Avant la naissance, avant la conception. 40 jours avant la conception. Oui, parce que l'âme est déjà choisie. On sait déjà quelle âme va descendre dans le corps. Et donc, on peut annoncer, il sera riche, il sera pauvre, il va avoir telle qualité, tel défaut, il va se marier avec un tel. Dans parenthèse, il y a un mamar du Tzemar Tzedek qui dit que, bien que la bat kol, elle dit un tel va se marier avec un tel, le Tzemar Tzedek nous dit finalement, il y a très peu de monde qui arrive à se marier juste avec celle que la bat kol, elle a désignée. Ça veut dire que, un homme peut se marier avec toutes les femmes qui ont la même neshama que lui. On a vu qu'une neshama, elle se découpe à l'infini. Ça veut dire qu'un homme a une neshama, il y a plusieurs milliers de personnes dans le monde qui ont la même neshama que lui, y compris des femmes. Donc on le disait tout à l'heure, une neshama, elle peut redescendre dans un corps pour compléter quelque chose qui a manqué dans une vie précédente. Ça veut dire aussi que, par exemple, Dieu peut décider que dans une vie précédente, deux mitzvot ont manqué. À ce moment-là, Dieu peut décider que la neshama, on va la couper en deux et on va la mettre dans deux corps différents. Et à ce moment-là, chacun de ces corps, dans lequel il y a une demi-neshama, va avoir une mitzvah à accomplir. Et c'est par la somme de la avoda de ces deux neshamot à la fois que la neshama va arriver à recevoir l'élévation. Il y a quand le rabbi avait perdu sa mère, son beau-frère lui a posé la question. Il lui a demandé, au moment de Triat HaMetim, lorsque les hommes vont revivre, donc lorsqu'une neshama a eu plusieurs vies successives, quel est le corps qui va revivre ? Le rabbi expliquait à ce moment-là que tous les corps à la fois vont revivre. Ça veut dire qu'une neshama peut se découper en morceaux. Et donc, si par exemple, une neshama accomplit dans une première vie 60% de sa mission, dans une deuxième vie 30% de sa mission, et dans une troisième vie 10% de sa mission, à ce moment-là, quand le Mashiach viendra, les trois corps à la fois vont revivre. Le premier corps va vivre avec 60% de l'anshama, le deuxième corps va vivre avec 30% de l'anshama, et le troisième corps va vivre avec 10% de la neshama. Et donc, sur une neshama, on dit neshama, c'est un etsem, c'est l'essence de Dieu qui n'a pas été modifiée en étant introduit dans le corps de l'homme. Donc, il y a une Rabbi Sadia Gaon, il dit dans une autre vidéo, il dit etsem she'ata tofes bemiktsato, ata tofes bekulo. La caractéristique d'un etsem, c'est que dans une partie du etsem, on retrouve toutes les qualités du etsem à la fois. Par exemple, la lumière qui émane du luminaire n'est pas un etsem. C'est pour ça que si on est juste à côté de la source de lumière, on est fortement éclairé. Si on est éloigné de la source de lumière, on n'est pas très fortement éclairé. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source, l'extension de la source perd les caractéristiques de la source. Par contre, le etsem, il reste toujours identique. Dans la mesure où il reste toujours identique, une partie du etsem a toutes les qualités du etsem, et donc une partie de la neshama peut faire vivre l'ensemble d'un corps. Donc une neshama qui a vécu dans trois corps successifs, elle fait revivre les trois corps successifs. Donc ça veut dire que un homme doit se marier avec une femme qui a la même neshama que lui, de façon à ce qu'au moment où il se marie, ce soit deux parties de la même neshama qui reviennent ensemble. Donc ça, c'est d'après la Torah une des causes du divorce. C'est pas la seule, il y en a d'autres, mais une des causes du divorce, c'est le fait que deux personnes qui décident de se marier n'ont pas la même neshama. On peut savoir, on a besoin d'un mérite particulier, vous demandez au rabbi. Bien sûr, c'est une question. On a besoin d'une bracha du rabbi, c'est clair pour ça. Donc ça veut dire qu'il faut faire confiance à la hashgacha pratique de Dieu. Dieu fait en sorte que quand deux personnes sentent que tout colle bien entre eux, c'est parce qu'elles ont partie de la même neshama. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est, on pense que c'est tellement évident, quand on annonce bat ploni les ploni, la fille d'un tel va se marier avec un tel, en fait, le Tzemar Tzedek nous dit, il y a très très peu de chances qu'on puisse se marier avec celle qui a été désignée. Par contre, il suffit de se marier avec n'importe quelle femme qui a la même neshama que son mari.
C'est la différence entre Batou et Jumi et la différence avec lorsqu'on dit qu'on peut se marier avec quelqu'un qui a la même neshama.
Ça veut dire que bat ploni les ploni, ça veut dire il y a, c'est telle femme qui a été plus spécifiquement désignée pour se marier avec tel homme. Maintenant, parce qu'elle, elle a la même neshama que cet homme-là, c'est évident. Mais c'est pas la seule. Il y en a beaucoup d'autres. Celle-là, elle a été désignée par la bat kol. Elle est plus spécifiquement désignée pour devenir sa femme. Néanmoins, si quelqu'un n'a pas le mérite de la trouver, mais qu'il trouve quelqu'un d'autre qui a la même neshama que lui, alors il pourra néanmoins se marier avec elle. Par contre, se marier avec quelqu'un qui n'a pas la même neshama, ça c'est impossible. Ça se finit mal. Oui.
C'est quand même une question. Comme il y a la Hadgara Prati, c'est quand même avoir conscience que Hachem fait rentrer la Neshama qui l'a fait.
Bien sûr. Alors, si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, un homme doit apprendre à connaître le mal, apprendre à l'identifier. Ça veut dire que je peux très bien prendre la décision de me marier sans avoir pris toutes les précautions nécessaires pour faire en sorte que ça marche. Ça peut être un cas qui justifie que ce ne soit pas les deux parties de la même neshama qui se rencontrent, avec les conséquences que ça peut avoir. Donc vous voyez que le tzaddik, lui, c'est celui qui va distribuer la vie à toute la génération. Et ça nous permet de répondre à une question que chacun peut se poser. On a l'habitude, quand quelqu'un a fait une avéra, quelqu'un a mal agi, il va aller voir le tzaddik et il va demander au tzaddik un tikkun. Comment je peux faire pour réparer la faute que j'ai commise? Donc vous voyez que, avec la définition du tzaddik qu'on a donnée avant, le tzaddik c'est celui qui n'a pas la perception du mal. Si on réfléchit, le tzaddik c'est le dernier qui peut m'aider. Moi j'ai fait une faute, moi j'ai fait du mal, et comment je peux réparer ma faute en allant voir quelqu'un qui n'a pas la perception du mal? Comment est-ce qu'il va m'aider? Moi j'aurais pu penser, quelqu'un qui a fait la même avéra que moi, qui est arrivé à s'en sortir, je vais le voir, lui va me donner un conseil pour me sortir de cette avéra. Ça je peux comprendre. Par contre, je vais voir un tzaddik qui n'a pas la perception du mal. Et c'est ce tzaddik qui n'a pas la perception du mal qui va m'aider à retirer le mal que j'ai en moi. Comment c'est possible? Alors, l'explication est très simple, c'est que le mal, dans sa source, c'est du bien. C'est uniquement la forme qu'il prend en arrivant en bas dans le monde matériel qui le rend mal. Par contre, tel qu'il est dans sa source, le mal, il est bien. Pour s'en convaincre, vous savez qu'il y a une succession de mondes supérieurs, le monde d'Atsilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira, le monde d'Assia, on verra ça plus loin dans le Tania, si on y arrive. Le Atsilut, c'est un monde dans lequel le mal n'existe pas. Bria, c'est le mal dans lequel le monde dans lequel le mal fait son apparition. Yetzira, c'est un monde équilibré entre le mal et le bien. Et Assia, c'est le monde où le mal est majoritaire. Maintenant, tout ce qui existe dans le monde matériel passe nécessairement par l'enchaînement des quatre mondes. En Atsilut, il n'y a que du bien. Ça veut dire que le mal tel qu'il se trouve en Assia, lorsqu'il est en Atsilut, c'est du bien. Donc en fait, lorsque je vais voir le tzaddik et que je demande au tzaddik un tikkun pour une avéra qui a été faite dans le monde, qu'est-ce qu'il va faire le tzaddik? Il va reprendre la source de la avéra telle qu'elle est dans le bien. Et de cette façon-là, il peut arriver à transformer mon comportement. Ça, c'est l'intervention du tzaddik telle qu'elle est possible dans le monde. Même également, une autre intervention du tzaddik. Le tzaddik, on a dit avant, les hagid, les hamshir, le tzaddik, il peut faire en sorte que l'influence que Dieu accorde aille dans un sens plutôt que dans un autre. Par exemple, la Gemara nous dit que mezonotav shel adam ktsuvim lo mirosh hashana. Le jour de Rosh Hashanah, il y a un jugement, et dans le jugement de Rosh Hashanah, tout ce qui va se passer pendant l'année est d'ores et déjà décidé. Donc, moi, je peux me poser la question, à quoi ça sert de prier tous les jours? Je prie Dieu pour lui demander d'avoir une bracha dans tel domaine, tel domaine. Je pourrais me dire de deux choses une. Ou bien la bracha, elle a déjà été accordée à Rosh Hashanah, et à ce moment-là, ce n'est pas la peine que je demande, je l'aurai. Ou alors, à Rosh Hashanah, ça n'a pas été accordé. À ce moment-là, ce n'est pas la peine que je me casse la tête à demander quelque chose que de toute façon, je n'aurai pas. Donc, qu'est-ce que c'est l'explication? L'explication, c'est que à Rosh Hashanah, pendant le jugement de Rosh Hashanah, ce qui va se passer pendant l'année est dévoilé sous une forme qui n'est pas encore définitive et qui peut être modifiée. Ça veut dire qu'on peut imaginer une bénédiction que Dieu accorde à Rosh Hashanah, que je vais obtenir à Rosh Hashanah au niveau spirituel, et puis pendant l'année, je ne vais pas savoir trouver les moyens de dévoiler cette bénédiction matériellement dans le monde, et donc la bénédiction ne se dévoilera pas. Et à la fin de l'année, elle va remonter là-haut, parce que bien que Dieu a donné tout ce qu'il faut pour que cette bénédiction se dévoile concrètement dans le monde, malgré tout, il y a un blocage qui fait que ça ne se dévoile pas. Alors c'est là que le tzaddik, il peut intervenir. Le tzaddik, il peut faire en sorte que la bénédiction se dévoile dans le monde d'une certaine façon. On voit que le rabbi explique dans un Mahama. Le rabbi raconte une histoire du Baal Shem Tov. Il nous dit que un couple, une fois, était voir le Baal Shem Tov, couple qui était très riche, et ils ont demandé au Baal Shem Tov une bracha pour avoir des enfants. Et le Baal Shem Tov leur a dit, je peux vous donner une bénédiction pour avoir des enfants, à condition que vous acceptiez d'être pauvres. Et le rabbi dit, a priori, c'est difficile à comprendre. Pourquoi on est obligé de leur enlever leur richesse pour leur donner un enfant? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir un enfant en conservant la richesse? Alors, le rabbi explique, la bénédiction que ce couple a reçue à Rosh Hashanah, elle n'était pas suffisante pour leur donner à la fois les enfants et la richesse. Donc, eux, de la manière dont ils ont prié ou de la manière dont ils sont arrivés à dévoiler la bénédiction dans le monde, ils ont dévoilé cette bénédiction sous forme de richesse. Comme la totalité de la bénédiction qui a été accordée à Rosh Hashanah, elle va dans le sens de la richesse, alors il ne reste plus rien pour avoir les enfants. Donc, le Baal Shem Tov, il dit, le Tzadik Ador, il dit, moi, je ne peux pas accorder quelque chose que Dieu n'a pas accordé à Rosh Hashanah. Par contre, je peux détourner la destination de la bracha qui a été accordée à Rosh Hashanah. Maintenant, comme la bénédiction elle n'est pas suffisante pour donner les deux à la fois, donc s'ils veulent un enfant, ils sont obligés de renoncer à la richesse. Ça, c'est l'intervention du tzaddik. C'est faire en sorte que chacun reçoit la vitalité et qu'il reçoit la vitalité dans le domaine où il a le plus besoin. Donc, l'attachement au tzaddik, c'est ce qui permet de faire en sorte que la vitalité se dévoile effectivement. Le moyen de recevoir la vitalité du tzaddik, c'est de se soumettre à lui. Plus on est soumis, plus on reçoit la vitalité qui émane d'un domaine profond. Plus on se révolte contre le tzaddik et plus on reçoit ce qui jette par-dessus l'épaule. C'est-à-dire une vitalité à part entière, mais donc avec toute la différence qu'il peut y avoir entre la dimension profonde et la dimension la plus superficielle. Donc c'est pour ça que Yov dit « Barata tzadikim, barata reshaim ». Il y a des tzadikim qui sont créés a priori sous forme de tzadikim. Dieu le fait qu'ils soient des tzadikim depuis leur naissance. Donc ils n'auront pas de perception du mal pendant toute leur vie. Et ensuite, Barata Rechaim, Dieu a créé des Rechaim qui, eux, ont besoin d'une lutte permanente pour devenir des Beinonim. Vehat Tzadik Verasha Lokeama, Par contre, lorsque la bat kol n'annonce pas tzadik ou racha, c'est parce que la bat kol sait que le tzadik est tzadik. Par contre, la bat kol ne veut pas que le racha reste racha. Le but du racha, c'est de devenir beinoni. Donc si on disait, si on annonce au moment de la naissance de quelqu'un, il va être tzadik ou il va être racha, alors on aurait l'air de le cantonner dans son rôle de racha. Alors qu'en fait, être un racha, c'est uniquement une première étape pour ensuite arriver à être un beinoni. Et avoir un beinoni, c'est être un beinoni, c'est avoir un comportement identique à celui du tzadik. Donc vous voyez que les deux choses ne sont pas contradictoires. Dieu peut annoncer à l'avance qui est un tzadik et qui est un racha. Et néanmoins, on ne va pas dire celui-là est un racha, parce que être un racha n'est pas un état définitif. C'est quelque chose qui appelle un effort permanent de la part de l'homme et qui, en fonction de cet effort, doit être modifié en permanence. Alors, a priori, le tzadik, de par sa création, il a un état définitif. Maintenant, bien que le tzadik a un état définitif, on vit dans un monde où le bien et le mal sont mélangés, et donc ça veut dire que tout peut arriver. C'est ce qu'on a expliqué hier et avant-hier. Le libre arbitre du tzaddik, c'est que lui, lorsqu'il observe la matière du monde, il observe la parole de Dieu qu'il y a dans la matière du monde. Ça veut dire que lui n'a aucun attrait pour le monde matériel. Et donc, son sentiment premier, c'est de se retirer du monde matériel. Donc, de même que le rachat a une attirance naturelle vers les plaisirs du monde, et donc pour lui, le service de Dieu, ça consiste à se retirer des plaisirs du monde, pour le tzaddik, ça se passe exactement en sens opposé. Il a une attirance naturelle vers la spiritualité et vers le fait de se retirer du monde, et il doit bien au contraire se rentrer dans le monde pour apporter l'élévation aux choses matérielles. Et donc c'est pas plus difficile, c'est peut-être même la avoda du tzadik est peut-être plus difficile que celle du racha. Le racha qui a un attrait, une attirance pour les choses du monde et qui doit faire trois pas en arrière, il a des difficultés comparables ou peut-être même moindres à celles du tzadik qui lui a envie de faire trois pas en arrière et auquel on demande de faire trois pas en avant. Le rachat aussi. Le rachat aussi. Le rachat aussi, il a été créé en tant que rachat. Et donc, le rachat reçoit une avoda de rachat et le tzadik reçoit une avoda de tzadik.
On a dit que le tzadik, lui-même, on va dire à la fin que le tzadik, il avait aucun attrait pour les plaisirs matériels. Au contraire, lui, son but, c'est de se retirer le plus possible des plaisirs matériels.
Pas du tout. Non, au contraire. Au contraire, qui c'est qui peut s'investir dans la matière du monde? C'est précisément quelqu'un qui n'a pas d'attirance pour ces plaisirs-là. C'est lui qui peut leur apporter l'élévation. C'est pour ça que la Mishnah nous dit « Asusiag la Torah ». Ne vous contentez pas de ce que la Torah vous interdit. Essayez de faire des barrières autour de la Torah en vous imposant des chumrod, des idurim, la façon de faire les meilleures choses. D'un autre côté, la Gemara nous dit Daïcha Mashéasra Lecha Torah. Suffis-toi de ce que la Torah t'a interdit. Ne cherche pas à t'interdire d'autres choses. A priori, les deux affirmations ont l'air contradictoires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun est différent. Chacun a une mission en fonction de sa personnalité à lui. Et donc, pour pouvoir servir Dieu, il faut d'abord bien se connaître. Connaître ses défauts et connaître ses qualités. Donc ça veut dire, de même qu'on ne doit pas surévaluer ses qualités, on ne doit pas sous-estimer ses défauts, on doit se connaître exactement. Ça veut dire que quelqu'un qui sait qu'il a du mal, il a des difficultés particulières dans un certain domaine. Alors il ne va pas se mettre en danger, il ne va pas s'exposer en sachant que dans ce domaine-là précisément, il a des difficultés. Donc dans ce domaine où il sait qu'il a des difficultés, il doit mettre en pratique Asusiag la Torah. C'est à lui de se faire des chumrot. Par contre, s'il y a un domaine dans lequel il sent qu'il n'a aucun yetzer hara, à ce moment-là, Daïcha Mashéasra Lecha Torah, On ne doit pas introduire des khumrot dans un domaine où on sent qu'on n'a pas d'attirance vers le mal. Au contraire, en ayant une action matérielle dans ce domaine-là, on apporte l'élévation à la matière du monde. Donc ça veut dire, on ne demande pas à un homme de se mettre en danger. Quand on sent qu'on a un yetzer hara particulier dans tel domaine, alors il faut se préserver dans ce domaine-là. Par contre, quelqu'un qui sent qu'il n'a aucune difficulté, lui au contraire, il doit apporter l'élévation. Donc le tzaddik, lui, il peut apporter l'élévation à tous les domaines matériels à la fois.
Est-ce qu'un tzaddik peut ne pas accomplir sa mission? Est-ce qu'il peut en revenir?
Bien sûr. Bien sûr. Absolument. Même les tzaddikim les plus élevés peuvent avoir des gilgoulim aussi. Le Rabbi Maharash avait un fils qui était un gilgoul de l'Admorah Zaken, qui a écrit le Tanya. Donc lui, il est venu au monde et il savait qu'il devait vivre 7 ans. Et que sa Neshama vive 7 ans dans le monde pour pouvoir compléter quelque chose qui s'était passé du nom d'Admorah Zaken. Donc, le jour d'anniversaire de ses 7 ans, il a mis ses habits de Shabbat, il a fait Mincha, il a fait Shemoneh Esrei pendant 1h30, et ensuite il est Niftar.
Dans le paragraphe, juste après, il y a la citation de Yod,
Tzadik Verasha, Lokehama. Ça, c'est les paroles de Job. Ça, c'est ce que dit Job. Job, il dit.
Or, il n'est pas décidé, après une fraternité, or, il n'est pas décidé, qui est juste et qui est méchant.
Ça, c'est la phrase suivante.
Oui, ça, j'ai pas.
Donc, ça veut dire Job dit à Dieu, tu as créé des tzadikim et tu as créé des réchaïm.
On répond à ça, le Tanya répond.
Et le Tanya ne répond pas, le Tanya soulève une objection.
Oui, il n'est pas décidé qu'il est juste.
Voilà, donc comment tu peux dire, tu as créé des tzadikim, tu as créé des réchaïm.
Il y en a de fait.
Voilà, donc l'explication, c'est Job dit, tu as créé des tzadikim, tu as créé des réchaïm, parce qu'il fait référence à l'état de naissance. Maintenant, on ne dit pas qui est tzadik et qui est racha, parce que là, on ne fait plus référence à l'état de naissance, mais à l'état auquel l'homme accède par son effort. Et par son effort, il ne peut plus se limiter à être un racha, il doit être un beinoni.
Ça intéresse le mikvé demain soir, ça sera 19h15, 20h, et samedi matin, 8h de